Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce jeudi matin est Armel Delesquin, il est secrétaire départemental adjoint des Républicains d'Ille-et-Vilaine. Il est également conseiller municipal délégué de Saint-Malo et même chef d'entreprise. Voilà, comme ça vous avez tout votre...
Mon pédigré.
Voilà. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous.
Bonjour Stéphane, merci pour votre invitation.
Alors, nous allons parler de politique, hein. C'est le principe de ce rendez-vous matinal. Et j'avais envie de vous entendre car... vous avez été aux États-Unis un long moment, vous arrivez en quelque sorte des États-Unis et vous avez vécu la montée de Donald Trump et Donald Trump élu désormais. Vous avez compris qu'on va parler de politique étrangère. J'avais envie plus de vous entendre sur ce choix des Américains d'avoir mis au pouvoir, ou remis au pouvoir en l'occurrence, un président qu'on pourrait qualifier de brutal.
Alors oui, je suis pas spécialiste des États-Unis, mais j'ai un petit peu vécu là-bas et puis surtout on y va régulièrement. J'ai la chance d'avoir une filiale là-bas et d'avoir beaucoup de contacts. Et c'est vrai que l'élection de Trump n'a pas été vécue du tout de la même manière en France et aux États-Unis, en tout cas de mon point de vue. Et je suis convaincu que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas eu une volonté de voter pour Trump parce que les idées plaisaient majoritairement aux Américains, même si évidemment vous avez un schisme entre la droite et le Sud. Mais je pense que c'est d'abord parce que beaucoup d'Américains ont voté contre aujourd'hui la politique qui était menée notamment par Biden, Kamala Harris ou autre, qui était une politique qui était profondément, notamment wokiste, qui a inquiété beaucoup d'Américains, qui allait trop loin. Et c'est toujours la même chose, vous avez un effet de balancier qui va dans un sens et l'effet qui va dans l'autre sens de manière très violente. Et je crains que malheureusement, c'est ce qui se passe en ce moment avec Trump.
Avec peut-être, on dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis arrive quelques temps après en France ou en Europe plus largement. On peut calquer un petit peu ce qui se passe aux États-Unis sur ce qui pourrait se passer éventuellement en France avec la progression du Rassemblement National par exemple.
Ouais, probablement. Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'en France, on a un vrai sujet qui est, les gens appellent ça la justice sociale, le vivre ensemble ou autre, qui est totalement inexistant dans de nombreux quartiers. On voit là aussi, je vais pas vous expliquer aujourd'hui la situation de la France, mais c'est catastrophique dans plein de quartiers, dans une grosse partie de la population. Et effectivement, je pense que les gens ne veulent plus de ça. Ils veulent... le sujet de l'immigration, par exemple, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que le RN est cantonné sujet d'immigration? Mais moi, je pense que c'est d'abord des vrais sujets d'intégration. Mmh. En fait, les Français n'ont pas envie de lutter contre une immigration pure et dure. Ils veulent une intégration. Ils veulent des étrangers qui viennent en France, qui aiment la France, qui vivent comme nous et avec, évidemment, une partie de leur culture. L'idée n'est pas de tout renier. Mais... voilà, qu'on ait une vision commune et un amour du pays commun. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs. Vous voyez, les États-Unis, c'est intéressant quand vous êtes mexicain et que vous avez la nationalité américaine. La première chose que vous allez faire, vous allez chez Walmart, vous allez acheter un drapeau américain parce que vous êtes fier d'être américain, vous êtes fier d'être de ce club-là et vous allez supporter votre pays américain, votre pays, les États-Unis. Et c'est d'ailleurs, là aussi, même d'un point de vue politique, un vrai point commun, par exemple, entre les démocrates et les républicains. Il n'y a pas un centimètre de différence entre leur amour du pays, que vous soyez démocrate ou républicain, ce qui n'est pas le cas du tout avec la France. Je veux dire, aujourd'hui, qui peut dire que LFI aime la France? LFI déteste la France, les communistes détestent la France, ils veulent la perte de la France, ils veulent la détruire de la manière dont on la connaît, évidemment. Ils veulent une autre France, une France créolisée, une France, etc. Et puis vous avez à droite des gens qui disent « Non, mais nous, on veut sauvegarder notre culture, on veut aimer notre France et on veut une France qui soit qui reflète voilà ce qu'elle a été, qui évolue évidemment mais qui correspond aux attentes de nos concitoyens,
voilà, qui conserve ses valeurs. Finalement, on pourrait parler de valeurs aujourd'hui.
Absolument, oui, je pense que c'est un vrai sujet, le débat sur les valeurs est là et on voit bien que c'est la guerre de deux France, hein. Jacques Marseille avait écrit ça d'ailleurs, la guerre des deux France, où en fait on se rend compte que notamment sur la gauche LFI ou autre, avec les, toute la l'antisémitisme qu'il y a complètement à gauche, une politique pro-islamique, avec une Rima Assad qui fait tout et n'importe quoi. Enfin, comment est-ce qu'on peut accepter ça encore, je veux dire, au Parlement européen? Donc oui, je pense qu'il y a un vrai schisme. Et je crains, effectivement, qu'il arrive en France ce qui s'est passé aux États-Unis et qu'on se retrouve avec un président en France, ou une présidente, qui ne soit pas celle qu'on attend vraiment et qui ne soit pas celle qui règle les problèmes.
Alors, vous parliez d'immigration tout à l'heure. Alors, c'est un sujet, pardonnez-moi le terme, il est un peu trivial, mais casse-gueule. Hein. On entend beaucoup de choses sur l'immigration entre ceux qui veulent ouvrir les frontières et ceux qui veulent les fermer, hein, pour un peu caricaturer ou forcer le trait. Et puis, il y a le raisonnable, quelque part, pour dire, voilà, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui avec Bruno Retailleau au gouvernement, qui est très pointé du doigt, en particulier sur l'affaire algérienne, ces OQTF que l'Algérie ne veut pas récupérer et ce climat diplomatique et ce climat relationnel entre les deux pays qui est assez, alors j'allais dire maussade pour reprendre un terme météorologique, mais on pourrait dire assez dégradé.
Oui, mais vous avez raison, et d'ailleurs personne en France, en tout cas chez les LR à droite, pas du tout une logique contre l'immigration, on veut juste de l'intégration. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment la clé du sujet. C'est comment est-ce que des gens qui viennent dans notre pays se sentent français et on a à vivre ensemble. Comment... Vous savez, moi j'ai travaillé au Bourget pendant 4 ans. Et quand j'ai travaillé à ce moment-là, j'ai discuté avec mes équipes et notamment des gens qui avaient vécu depuis 20 ans, 25 ans et qui, au Bourget, donc c'est dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Hein, et qui ont vu en fait leur quartier évoluer. À l'époque, il y a 30 ans, c'était des petits pavillons, il y avait des étrangers, vous avez des Français, mais on avait à vivre ensemble. Et puis progressivement, c'est devenu des zones de non-droit où en fait vous avez un islamisme très très fort et ces Français qui étaient là depuis le début sont quasiment tous partis, et ceux qui sont restés parce qu'ils n'ont pas eu le choix ne se sentent plus chez eux. C'est un vrai sujet. Mmh. Et ben c'est la même chose, par exemple avec justement avec l'Algérie ou la manière dont on gère le problème des OQTF. Et ben on s'écrase en permanence. On a toujours des bonnes raisons d'expliquer que c'est plus compliqué, que on n'y connaît rien, que vous comprenez en fait les OQTF. L'Algérie est un État souverain et donc ils peuvent reprendre, pas reprendre. Il faut donner des laissez-passer, des visas consulaires ou autres. En fait, à un moment. Et d'ailleurs, je pense que là-dessus, on peut apprendre un peu des Américains et notamment de Trump. À un moment, on arrête de se poser 36 000 questions et on y va. Et en fait, on renvoie les gens. Alors, c'est ce que fait Retailleau, hein, quand on dit qu'il y a, voilà, quelque part, une volonté de dire si demain le gouvernement algérien ne reprend pas les OQTF, eh bien ça se passera mal. Voilà, on a le Premier ministre François Bayrou qui a appuyé ça. Je pense que là, on commence un peu à montrer les dents. Mais j'ai envie de dire, ça prend trop de temps, quoi. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner un ultimatum de 6 semaines?
Fallait le faire tout de suite.
Mais il faut le faire tout de suite. Mm-hmm. Et on a attendu des années. Et pendant des années, on a courbé les chines. Et on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est ingérable. Et ça, c'est le problème de la France. C'est qu'on attend toujours d'être au pied du mur pour agir.
Il y a une peur, finalement, d'un embrasement des quartiers. C'est ce qu'on a entendu, hein, si demain, il y avait des mesures coercitives mises en place par la France à l'endroit de l'Algérie. On entend aussi, évidemment, des voix qui s'élèvent pour dire oui, si on fait ça, on va avoir des problèmes politiques. Alors, essentiellement, effectivement, avec LFI, par exemple. Et puis, il y a en embuscade, effectivement, l'islamisme, les frères musulmans qui occupent de plus en plus de territoire. Ce sont des inquiétudes que vous avez au sein de LR, des discussions qu'il y a.
Mais évidemment, personne n'est naïf. Je veux dire, quand vous discutez avec, que ce soit avec François-Xavier Bellamy, David Lisnard ou autre, mais même, je dirais même Isabelle Le Callennec, qui est notre députée française au Parlement, qui n'a absolument aucune naïveté. Moi, Thomas Rousseau, qui est le secrétaire départemental des LR, on en parle beaucoup, beaucoup. Vous savez, moi, je me souviens toujours de ce match France-Algérie qui a eu lieu, je crois, peut-être une dizaine d'années, où vous aviez en réalité, pendant ce match, 90% de drapeaux algériens. Et ces drapeaux algériens étaient portés non pas par des gens nés en Algérie, mais par des Français nés en France, mais d'origine algérienne. Ça m'a perturbé vraiment parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand on vous dit on est capable de faire de l'intégration et que vous avez des gens qui ils sont nés en France et donc ils sont français et donc il faut les prendre comme tels, mais en fait eux ne se sentent pas comme tels parce que il y avait aucun drapeau français et d'ailleurs de mémoire je crois que la France avait gagné et ça avait créé des tensions parce que les Français nés en France d'origine algérienne avaient eu l'impression que la France les avait écrasés. Donc en fait on n'est pas du tout dans le vivre ensemble. Et ça c'est un vrai sujet de crainte parce qu'effectivement vous avez raison, le risque c'est l'embrasement, on l'a eu à Villiers-le-Bel il y a plus de presque 15 ans maintenant et je crains que ça puisse repartir, oui c'est vrai.
On paie finalement le tribut de la guerre d'Algérie aujourd'hui, la fameuse dette de mémoire.
Je ne sais pas si c'est une dette de mémoire, je pense que c'est une dette surtout que nous, Français, et notamment nous gouvernants, ont pendant des années ressassé, où en fait on a été dans une espèce de dynamique de flagellation permanente, auto-flagellation, à se dire qu'on avait été vraiment des mauvaises personnes et qu'après tout, on récoltait ce qu'on avait semé. C'est complètement faux. La guerre d'Algérie, alors encore une fois, je suis pas historien, mais la colonisation algérienne a été ce qu'elle a été. Mais moi, je n'en suis pas responsable. Moi, je ne m'estime absolument pas redevable de quoi que ce soit. Ma génération ne l'est pas, et d'ailleurs, la génération juste avant moi non plus. Donc là, on est dans une situation où on a un pays, la France, qui va mal parce qu'il est attaqué de toutes parts, et notamment par une immigration qui vient... de l'extérieur, alors quand je dis l'immigration, en fait, c'est une force politique algérienne ou autre, et puis de l'intérieur, où on sent bien que le vivre ensemble, l'intégration n'est pas là. Et donc, oui, on est inquiet, et je pense qu'il faut agir, et il faut agir de manière forte et ferme.
Alors, on a beaucoup de prises de position de la part de LFI. Ces prises de position, j'imagine qu'elles interrogent aussi à droite, chez les LR. Qu'est-ce qui se passe avec LFI ? Il faut aujourd'hui recadrer ce parti. On a entendu des voix qui disent qu'il faut interdire LFI. Il y a eu ces affiches de Cyril Hanouna qui a été caricaturé avec une affiche de très mauvais goût quand même au relent antisémite, qui a été enlevé par LFI, qui a été retiré de ses réseaux. Mais est-ce que c'est des faux pas qui interrogent ?
Alors, c'est plus que des faux pas. Alors non, il ne faut pas interdire LFI, il faut les combattre. C'est pas en les supprimant, en les interdisant, qu'on va être dans une démocratie. Par contre, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Et c'est à nous, à droite, c'est pour ça qu'il faut s'engager, qu'il faut militer, que j'en appelle à tous les concitoyens. Il faut s'intéresser à la politique, parce que de toute façon, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéressera à vous, à votre quotidien. Et donc, il faut arrêter d'être naïf, et vis-à-vis des LFI, il faut être complètement intolérant au moindre dérapage. Et je veux dire, on arrête de trouver des bonnes raisons. Et on sait très bien que les LFistes ne souhaitent qu'une seule chose, c'est détruire notre pays. J'en suis intimement persuadé. Vous savez, la gauche, surtout l'extrême gauche, ils sont nourris par la jalousie. Moi, j'en suis persuadé. Le vrai problème, c'est la jalousie. Ils détestent le monde dans lequel on vit. Ils détestent ces Français qui se lèvent le matin, qui bossent, qui vont au travail. Ils détestent ceux qui réussissent. Et leur seule et unique raison, c'est de tout casser pour essayer de recréer un espèce de monde dans lequel, en fait, eux auront un pouvoir absolu. Je veux dire, on a vu les résultats du communisme, on a vu ce que ça donnait. Enfin, l'histoire le montre en permanence. Et ils veulent ça. Et donc, il faut que les Français prennent conscience du fait que c'est pas possible et que c'est injuste, profondément injuste, d'être dans un mode de fonctionnement d'un pays géré par LFI, que c'est pas bon pour le français moyen, mais même pour le français pauvre, ou l'immigré, ou même le musulman. Enfin, encore une fois, je veux dire, moi, vous savez, j'ai l'image d'un... C'est assez incroyable. Vous avez une photo qui est passée où vous avez notamment les LGBT qui sont souvent pro-palestiniens, etc., et qui soutiennent la cause palestinienne. Très bien, s'ils le souhaitent, j'ai pas de problème avec ça. Mais je peux vous dire que les Palestiniens, eux, et notamment le Hamas, il ne soutient absolument pas la cause LGBT, mais il les déteste. En réalité, vous êtes LGBT, gay, bi, trans, etc., et vous allez en Palestine, mais vous vous faites lapider. Vous ne survivez pas 5 minutes en déclarant ce que vous êtes. Donc en fait, il y a une incompréhension totale, où je sais pas pourquoi, c'est des calculs politiques qu'ils font, mais qui, à mon avis, sont complètement déraisonnables et surtout mortifères pour eux.
Je voulais revenir à Donald Trump, parce que ça va nous amener aussi à la situation en Europe avec ces bruits de guerre. Donald Trump a parlé de Troisième Guerre mondiale. Bon, c'est peut-être très excessif, mais il y a quand même cette possibilité de paix en Ukraine. Paix qui passe par un rapprochement entre Donald Trump, en tout cas entre les États-Unis et Vladimir Poutine et la Russie, pour pouvoir arriver à cet accord de paix, dont on a l'impression quand même que Donald Trump a écarté d'un revers de manche l'Europe, et peut-être un peu plus grave, le président Zelensky, même si ils se sont réconciliés après l'épisode assez calamiteux de la conférence de presse dans le bureau ovale. Est-ce que cette paix peut être durable ? Est-ce que Trump, finalement, a la bonne méthode ? Un peu bulldozer, c'est son habitude. Ou est-ce que ça va aussi engager une nouvelle géopolitique et surtout de nouveaux courants entre, j'allais presque dire, l'Est et l'Ouest, finalement ?
Alors, c'est une vraie question. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis jamais allé à la Maison Blanche, je ne connais pas Donald Trump ni Vladimir Poutine. Mais ma vraie question, c'est à qui profite le crime ? Déjà, je trouve qu'il y a une vraie interrogation sur pourquoi est-ce que Donald Trump, comme ça, se met je dirais presque en position basse vis-à-vis de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce que, vous savez, il y a une théorie, c'est un grand économiste américain, je crois qu'il s'appelle Goodman, qui disait que voilà, Trump était un chef d'entreprise, qu'il avait fait beaucoup de business dans sa vie, et que peut-être qu'il était tenu par je ne sais quelle volonté russe ou autre, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est complètement incohérent et que c'est assez inquiétant. En réalité, voir la Russie et les États-Unis, alors évidemment, on vous dit que c'est parce que les États-Unis veulent que la Russie revienne dans un giron et ne parte pas vers la Chine, parce que la Chine est en réalité le vrai compétiteur mondial des États-Unis. Mais vis-à-vis de l'Ukraine, je pense qu'on a, en fait, si vous voulez, on est passé de tout au rien. Vous aviez d'un seul coup, mettez-vous à la place des militaires américains ou même des fonctionnaires qui disent, attendez, on soutient à fond l'Ukraine, on dépense des milliards, et puis du jour au lendemain, on arrête. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, il n'y a aucune cohérence. Donc en fait, encore une fois, je ne suis pas un expert pour vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ce que je vois, par contre, la vertu absolue, c'est que ça nous réveille, nous, les Européens. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'enfin, et Dieu sait que ça fait longtemps qu'on le demande, Dieu sait que ça fait longtemps que, notamment au sein de LR, on demande d'avoir une Europe puissante, une France puissante, mais aussi une Europe puissante qui soit capable de se gérer elle-même, qu'on arrête d'être dans cette naïveté permanente vis-à-vis, que ce soit des États-Unis, mais aussi, par exemple, de la Chine ou autre, dans nos exportations, nos importations, les frais de douane, voilà, tout ce qui aujourd'hui rend notre Europe puissante et autonome. Et je suis persuadé que, en réalité, si on veut vivre bien, si on veut être heureux dans notre continent, eh bien, il faut qu'on soit puissant, qu'on soit capable de faire porter notre voix et qu'on arrête d'être en position soumise vis-à-vis, notamment, des États-Unis, mais aussi de la Chine ou autre.
Alors, il faut aller vite maintenant. On a entendu parler de défense nationale. Ici aussi, le président de la République, dans son allocution il y a quelques jours, a parlé quand même d'une économie de guerre, a pris un ton assez sombre, assez inquiétant, allais-je dire. Est-ce que finalement, la belle endormie qui était l'Europe se réveille très vite, mais n'a pas mesuré le temps et les moyens qu'il allait falloir pour reconstituer, par exemple, des armées, pour aller vers une forme de commandement des armées européennes, peut-être, voilà. Est-ce qu'on a pris beaucoup de retard, finalement, et qu'on se réveille très en sursaut?
On a pris énormément de retard. Moi, je suis d'une famille de militaires. Une grosse partie de mes cousins sont militaires, mes oncles sont militaires, mon père était militaire. Enfin, dire, ça fait 20 ans que j'entends ce discours-là qui dit « on est à l'os ». Pierre de Villiers a démissionné, notamment pour ces raisons-là. Parce qu'en fait, on avait un budget qui était complètement sous-dimensionné et on a des armées qui font ce qu'elles peuvent, qui font véritablement de leur mieux. Alors la chance de la France, c'est que on a une armée qui aujourd'hui est de petit format, mais qui est sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'aussi bien sur la marine nationale, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre, vous avez du matériel performant. Donc en fait, il faut dimensionner maintenant l'appareil industriel pour pouvoir répondre à ça, et puis évidemment avoir plus de soldats qui soient capables de mener un éventuel conflit, parce que le vrai problème, il est aussi dans le nombre, et on s'en est bien rendu compte pendant la guerre en Ukraine, c'est que vous pouvez avoir les meilleurs matériels, un drone vous détruit 5, 6, 10 chars par jour, et que en fait aujourd'hui en France on en a en gros 400, dont X sous cocon, donc qui en réalité sont plus en état de dernière génération. Et puis par exemple pour le Rafale, pour passer en cadence 5, ce que Éric Trappier veut faire, le patron de Dassault Aviation, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que en réalité aujourd'hui on est en cadence 2, donc ça veut dire qu'on produit 2 avions par mois, donc passer à 5 c'est une économie de guerre qui va être très très dure, qui va prendre énormément de temps. Et vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands n'ont pas pris le Rafale, c'est parce qu'on n'était pas capable de les livrer aussi en temps et en heure. Ils ont choisi le F-35, notamment parce qu'ils auraient été livrés plus tôt.
Mais du coup, ils sont un petit peu dépendants, il faut bien le dire, des États-Unis.
Non, mais ils ont fait un mauvais choix. Ils ont fait un mauvais choix. Ils sont dépendants des armées des États-Unis et du matériel de défense américain. Et d'ailleurs, on est en train de voir que ce soit les lance-missiles ou les F-35, avec des histoires de logiciels, les Américains pourraient bloquer, enfin, grounder, comme on dit, les avions au sol, c'est-à-dire les empêcher de décoller. Donc, ça, ils sont dans une dépendance absolue. Quelle armée peut supporter ça? Quelle armée peut donner, il y aurait crédit enfin, donner le pouvoir à un tiers de dire, ben voilà, mes avions ou pas vont décoller en fonction du bon vouloir du, je dirais, de l'administration américaine. Donc non, c'est un vrai sujet.
Avec aussi une autre guerre qui a déjà démarré, c'est la guerre de l'information, c'est la guerre des réseaux, c'est cette fameuse guerre asymétrique aussi qui tend à manipuler les populations. On en entend beaucoup parler. Alors là, il y a encore, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, Elon Musk hein, qui est à la manœuvre avec X, son réseau social. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autre guerre, elle est là finalement, sur les influences, sur les ingérences, sur la manipulation de l'opinion publique, voire même, plus grave, la manipulation politique. On le voit par exemple en Roumanie.
Oui, oui, bah on le voit en Roumanie, on le voit, mais on l'a vu aussi en France pendant les élections. On sent bien que derrière, voilà, on a. Alors, d'où ça vient? Bon, moi, j'ai envie de dire que les Russes, en permanence, sont véritablement dans une logique de déstabilisation de notre pays. Je veux bien le croire. Dire, pour le coup, on sait que c'est pas très compliqué, que à partir du moment où vous mettez les moyens, vous êtes capable de, voilà, de financer des influenceurs, des gens qui vont prendre la parole, des gens qui vont tenir des discours. Haineux et qui vont scinder la France. Ouais, aucune naïveté là-dessus.
Avec, je reviens un petit peu sur l'économie de guerre et l'économie tout court, parce que finalement, il va falloir trouver de l'argent pour financer les nouveaux équipements militaires, peut-être embaucher, si vous me permettez le terme, de nouvelles compétences dans l'armée, former des soldats. On a entendu dire qu'il fallait que les Français mettent la main au portefeuille. Avec leur épargne, est-ce que c'est une bonne idée, finalement, l'épargne de guerre, si vous me permettez?
Absolument. Je pense que, de toute façon, on n'a plus le choix. En fait, vous savez, vous me posiez la question sur Macron tout à l'heure en me disant, mais voilà, il se transforme en chef de guerre. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a aucune conviction. Mmh. C'est ça, le fond du problème de notre président, c'est qu'il y a... Il est capable de vous parler et de vous dire ce que vous voulez entendre et aller voir votre pire ennemi, ou en tout cas votre pire opposant politique, et de lui dire exactement l'inverse en le regardant droit dans les yeux. Quelqu'un qui voilà, il est comme ça, et donc tout se vaut, tout se discute, et les convictions ont été n'importe peu. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'armée pendant des années. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, si on est dans cette situation-là, mais que ce soit sur la défense, mais que ce soit aussi sur nos déficits, c'est quand même un président qui a parlé en permanence d'une force économique française, qu'il faut relever la France, qu'il faut donner des moyens, qu'il faut certes réduire les impôts. C'est intéressant. On parle dans une économie de guerre. Il est en train de se mettre en chef de guerre en disant que demain, il y a un risque de conflit évident et qu'il faut absolument réarmer la France. Mais il dit attention, par contre, il ne faudra pas augmenter les impôts. Alors moi, je veux bien. Mais alors, dans ce cas-là, on fait comment? On fait comment? Et donc, alors oui, je pense qu'effectivement, il faut être capable d'aller voir les Français et de faire des plans d'épargne, un livret de défense ou autre, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir mettre la main au portefeuille et ça ne me semble pas anormal.
Avec justement un monde économique qui s'inquiète. Alors je vous disais en commençant, vous êtes chef d'entreprise, je vais aussi parler aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on a une bascule économique avec les États-Unis et ces fameux droits de douane que Donald Trump veut encore augmenter. D'ailleurs, il a dit si l'Europe a une position coercitive vis-à-vis des États-Unis, alors on passera à l'étape supérieure. C'est inquiétant pour l'économie mondiale, on va le dire, mais aussi pour l'économie française et plus largement européenne.
Ouais, mais là aussi, j'ai envie de dire, ça fait des années qu'on est déglacé. Malheureusement, enfin, je suis désolé, j'ai l'impression d'apporter que des mauvaises nouvelles, que tout le monde sait d'ailleurs. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous vous rendez compte à quel point le PIB, ou en tout cas votre pouvoir d'achat, est déclassé par rapport à celui des Américains. Un exemple très simple, hein, moi, quand on embauche quelqu'un, un commercial de 26 ans aux États-Unis, notamment à Boston, vous êtes sur 150 000 dollars annuels. Vous imaginez? Aujourd'hui, on est quasiment sur la parité, c'est-à-dire qu'un euro égale presque un dollar. Vous imaginez ce que ça représenterait? Donc en fait, déjà, on est face à un pays, les États-Unis, qui est beaucoup plus puissant économiquement, mais non seulement il est beaucoup plus grand en taille, mais même, je dirais, au niveau du PIB par habitant, Il nous explose largement, alors que ce n'était pas le cas il y a encore 15 ans. Mmh. Il y a 15 ans, on était... Donc la France s'est déclassée. La France a perdu de la richesse, évidemment, parce qu'on n'a pas été capable d'avoir une politique, et notamment pro-business. Et moi, je crois beaucoup au... Vous savez, là aussi, c'est toujours la même chose. Évidemment qu'il faut combattre la pauvreté, il faut prendre soin des plus faibles. J'y suis très attaché, des plus fragiles, c'est notre force. Je ne remettrai jamais en cause la sécurité sociale, la santé accessible à tous. Évidemment que c'est fondamental, ce sont mes convictions et c'est les convictions partagées par le LR. Mais il faut mettre de la performance, il faut mettre non seulement de la performance, mais de l'exigence. Et en fait, juste, je termine, et ce sujet-là, eh ben, c'est ce qu'on n'a jamais fait, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, en fait, eh ben, on n'a plus de moyens d'agir. Et voilà, et on est un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture en se disant, bah, comment on fait ?
Il faut remettre de l'économie finalement dans la société. Les gens ont du mal à comprendre. Souvent, on parle de grand capital, d'exploitation. On entend beaucoup ce discours à gauche. Finalement, l'économie, c'est pas mal si elle profite à tous.
Mais évidemment, on parle des entreprises du CAC 40. Hein. Les entreprises du CAC 40, c'est 5% des salariés en France, d'accord ? 5% des salariés travaillent dans des grosses boîtes, qui ont certains avantages. Déjà, ces boîtes payent énormément d'impôts. Ensuite, évidemment qu'il faut des entreprises qui soient des entreprises qui paient des impôts. Moi, j'ai une boîte, je paye des impôts et j'en suis fier. Et surtout, on embauche des gens qui eux-mêmes payent des impôts, on paye des cotisations sociales. Et en fait, voilà, on le fait pour notre pays. Et donc, vous savez, là aussi, malheureusement, si vous êtes amené à être pauvre, eh ben, je vous souhaite plutôt d'être pauvre dans un pays riche que pauvre dans un pays pauvre. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans un pays qui a les moyens, qui peut prendre soin des plus faibles, des plus fragiles, bah, c'est quand même mieux que de se retrouver dans un pays qui n'a plus aucune capacité d'agir et qui, bah, finalement, voilà, vous laisse sur le côté parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Alors, j'avais envie de vous entendre. Il nous reste 4 petites minutes, c'est court. Mais Armelle de Lesquin, je voulais vous entendre sur les municipales et surtout avant sur le choix que vont devoir faire les Républicains. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, mon cœur balance.
Alors moi, mon cœur ne balance pas parce que je soutiens clairement Bruno Retailleau, mais on n'est absolument pas dans une guerre des chefs et on a de la chance. On a de la chance parce que Laurent Wauquiez est aussi un très bon candidat et c'est quelqu'un qui a des convictions et c'est quelqu'un qui a des compétences. Donc de toute façon, on n'est pas dans un choix qui sera un choix du diable ou c'est impossible que ce soit Wauquiez ou que ce soit Retailleau des deux côtés. Non, là, les Républicains sont unis pour une fois et donc on peut le reconnaître, c'est une chance et il faut continuer à être comme ça. Je pense que Bruno Retailleau a raison de dire qu'il n'est absolument pas dans une guerre de personne, que s'il veut ce poste, c'est pour la France parce qu'il a des convictions, parce qu'il a un projet, il a un programme. Ce programme, il ne le porte pas seul. Avec lui, il a François-Xavier Bellamy, il a David Lisnard, il a beaucoup de monde. Donc c'est très encourageant. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les républicains ont quelque chose à apporter vraiment à la France. Enfin, on se réveille. Vous savez, quand on discute entre nous, on arrête d'être naïf par rapport à tout ce qui a été dit, notamment les années d'avant, par rapport notamment à l'extrême droite ou autre. On reconnaît bien volontiers que nous avons été faibles et qu'on s'est fait complètement, je dirais, lobotomisé par un discours de gauche qui nous a empêché d'agir et qui nous a empêché d'assumer nos convictions. Aujourd'hui, je pense qu'on les assume vraiment. Oui, il y a des sujets, des problèmes d'immigration en France qu'il faut traiter. Oui, vous avez des problèmes aujourd'hui de puissance de notre pays qui est complètement devenu faible parce qu'on est, on n'a pas assez investi. Oui, on paye trop d'impôts en France et il faut réduire les dépenses publiques. Les dépenses publiques sont beaucoup trop élevées et donc il faut rendre de la performance dans les administrations. Donc ça, on est capable de l'assumer et je suis convaincu que les recettes, pour le coup, elles, on les a. Et c'est certainement pas les recettes du RN notamment qui veut promouvoir la retraite à 62 ans alors que le monde avance, les Allemands sont à 67 et qui ne veut absolument pas revenir sur nos dépenses sociales ou nos dépenses, notre déficit, qui veut dépenser toujours plus. Non, nous, on va devoir être courageux. Les Français feront des efforts, mais c'est parce qu'on a une vision et on a une vision à long terme et qu'on aime notre pays profondément.
En un mot, il nous reste une poignée de secondes. Les municipales se préparent. Je le disais en commençant que vous étiez également conseiller municipal délégué à Saint-Malo. Le LR est en ordre de marche là aussi.
Alors, vous savez, les élections municipales ne sont pas vraiment des élections de parti. Donc oui, évidemment, au sein des LR, c'est très important et nous avons des candidats qui sont des candidats LR. Pour autant, on est très conscient du fait qu'en réalité, les citoyens votent pour des têtes de liste locales. L'étiquette importe peu. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura beaucoup de candidats LR qui seront élus.
En tout cas, merci d'être venu, Armelle Delesquin. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental adjoint des Républicains d'Ille-et-Vilaine et je le précisais tout à l'heure également, conseiller municipal délégué de Saint-Malo, chef d'entreprise. Et vous avez ce matin fait la route pour être avec nous. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup Stéphane. Bonne journée à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.